BD culte, exploration de planches iconiques du 9e art. Ce mois-ci, nous allons revenir sur l'univers de William Vance après avoir évoqué 13, après avoir évoqué Ramiro, nous allons évoquer le marin Brugy Hawker. Alors, Brugy Hawker revient, William Vance n'est plus, mais en avril 2024, les éditions du Lombard viennent de publier un nouvel album, L'œil du marais. Patrick Gomer vient aussi de publier une très belle biographie suite à tous les entretiens qu'il a eu avec William Vance chez Dargaud. Et on a maintenant dans la nouvelle série Brugy Hawker le scénario, le dessinateur Christophe Beck au scénario et Puertas Carlos qui va dessiner. Alors, Brugy Hawker, il est de retour, il commande le vaisseau L'Arc, mais le voilier vaisseau serait maudit et effectivement il va y avoir une aventure étonnante puisque en fait ils aperçoivent au loin la voile d'un bateau templier qui a disparu depuis 5 siècles. On se demande effectivement qu'est-ce qui va se passer dans la confrontation avec les spectres du passé et notre marin maudit. Voilà, alors aujourd'hui, nous allons parler du tome 5. Alors, il y a 7 tomes dans la série Brugy Hawker, qui était la série préférée de William Vance, qui est une série qui a été créée en 76, qui s'arrête en 96. On va parler de l'album Tout ou Rien, les planches 36 et 37. Alors, dans cette série, on a un univers maritime. C'est une suite plus adulte au premier héros qui avait été créé par Vance, qui s'appelait Howard Flynn. Cet album a été prépublié dans Femmes d'aujourd'hui en 76. Il y a eu ensuite une suite dans Tintin en 79 et ensuite Hello BD pour les derniers albums de la série. Et dès 85, nous avons des albums. Alors ces albums, on ne les trouve plus, mais par contre, depuis 2012, vous pourrez voir les 7 aventures du marin Brugy Hawker dans 2 très belles intégrales, toujours publiées aux éditions du Lombard. Alors, rappelez qui était William Vance, William Van Kusten. Il est né en 1935, il nous a quittés en 2018. On peut dire que c'est un maître de la BD d'action qui est né en Belgique et qui a immigré en Espagne en 1979. Il avait fait les beaux-arts, de la publicité. Il avait travaillé avec Dino Attanasio. Il avait travaillé à l'ancrage des couleurs de Bob Moran, dont il va devenir un des dessinateurs. Il a fait un certain nombre de récits complets dans le journal Tintin, des récits historiques. Il a travaillé avec des personnages de marins, effectivement, on évoquait Howard Flynn. Il a aussi dessiné des cow-boys, Ringo en 65, Marshall Blueberry en 91, des chevaliers, quelques aventures de Roderick et la magnifique fresque Ramiro, et aussi des agents secrets. Alors, il commence par Bruno Brasil, il continue Bob Moran, et après, dès 84, dans Spirou, il va développer la série à succès qui continue, c'est la série 13. Et il va travailler, il faut le savoir, avec sa femme Petra, qui était documentariste. Elle avait travaillé avec lui dans Femmes d'aujourd'hui. Et Petra va faire les magnifiques couleurs des aventures des héros de William Vance. Et il va aussi travailler avec Duval, Greg, sur les scénarios de ses séries. Alors là, dans cet album, on a un co-scénariste qui est crédité depuis le 4e album. C'est Jean-Pierre Duchâteau, qui a travaillé avec Tibet. Et effectivement, ce qui est intéressant, c'est que Vance va essayer de faire un petit synopsis et Duchâteau va beaucoup travailler les dialogues. Et c'est important, cette complémentarité, pour effectivement donner un certain sens de la tragédie à une histoire qui est pleine de bruit et de fureur. Voilà, donc on va écouter les planches 36 et 37 de l'album Tout ou Rien, vous donner un petit peu le pitch, c'est que Brugy Hawker et son vaisseau Le Sara échappent à une embuscade de la marine espagnole avec le commandant Lund qui est un allié. Les bateaux anglais sont aux mains des ennemis et Brugy Hawker décide de sortir ces bateaux du port au nez et à la barbe des Espagnols. Donc il y a des idées de stratégie. Il y a aussi, vous allez voir, un intérêt amoureux avec le personnage de Diana qu'on va entendre dans les planches. Voilà, on écoute les deux planches.
Allons, Bruce. Venez tous à bord du Sara et abandonnez les deux autres bâtiments.
Jamais.
Oh, tout va recommencer alors. La bataille, la mort.
À 3 contre 1, nous avons peut-être une chance.
Oui, Bruce a raison. Il n'est pas sûr, d'ailleurs, que notre côtre puisse distancer notre poursuivant. Notre seul espoir est d'accepter le combat.
Diana.
Ne dis rien.
C'est donc bien convenu, Gordon. Le Sara doit absolument parvenir en Angleterre. Même si pour cela, l'Espagnol doit nous anéantir tous les deux.
Oui, c'est compris.
Heureux de vous avoir connu, Gordon.
Moi aussi, Bruce. J'espère avoir bientôt l'honneur et le plaisir de boire une chope en votre compagnie.
Voilà donc notre adversaire. Une frégate de quatrième rang. 54 bouches à feu, plus puissant et mieux armé encore que je ne le redoutais. Espérons que le plan mis au point avec Lund puisse réussir. Il est prévu, avec Gordon, que nous nous portions à l'attaque avec le Lone et le Glorious, les deux bâtiments repris aux Espagnols.
Vous comprenez, Diana, ils masquent ainsi la vue aux donces par rapport à nous.
Je comprends surtout que Bruce prend tous les risques, comme d'habitude.
Ne croyez pas cela. Quand nous nous jetterons dans la mêlée, il faudra vaincre ou périr.
Excusez-moi, je suis injuste.
Avec leur équipage de fortune, les deux bâtiments anglais se portent audacieusement au-devant du feu de l'ennemi.
C'est désespéré. Les donces vont les couler dès les premières salves.
Voilà, donc on a effectivement dans ces deux planches pas mal de dialogues, mais aussi beaucoup de scènes où nous avons notamment au cœur de la première planche, un bateau mais magnifiquement dessiné. On voit là l'intérêt de la documentation et le travail minutieux de William Vance. Donc une alliance entre finalement l'intime et le grandiose avec cet océan. Et nous avons même une carte qui est montrée, une carte de stratégie qui est montrée à la troisième case de la deuxième planche. Donc c'est vrai que c'est intéressant ce mélange entre l'intime et le maritime. On voit le dilemme moral de ce personnage qui est tenté entre le sacrifice et l'idylle avec ce personnage de Diana qu'il a sauvé dans un album précédent. On a ces plans larges de navire qui donnent toute l'ampleur au combat qui va suivre. Et effectivement, ces dialogues travaillés par Duchâteau qui sont empreints à la fois d'un certain fatalisme et d'un certain romantisme. Voilà. Alors, ce héros, Brugio au cœur, il est très particulier. C'est un lieutenant de la marine anglaise. C'est un enfant adopté, de mère inconnue, comme le héros moyenâgeux Ramiro. Il y a une tignasse blanche, comme Bruno Brasil. Et depuis 1890, il est commandant du bateau L'Arc, qui est un bateau un peu maudit. On va se rendre compte qu'il y a régulièrement des problèmes avec ce bateau. Ce personnage n'est pas un personnage respectueux de la hiérarchie, il refuse souvent d'obéir. Il a été dans un précédent album condamné aux galères. Suite à cette injustice qu'il a vécue, il a été abandonné par ses parents adoptifs et sa fiancée. Et donc du coup, pour se racheter, il est parti faire une mission contre le press gang et il va être réhabilité. Et donc effectivement, dans cet album, il va recueillir Dana Somerville qui a été sauvée dans des Espagnols. C'est peut-être une espionne à double visage, mais on ne sait pas encore. Donc c'était dans le tome 4. Mais il va tomber amoureux d'elle et c'est réciproque. Donc est-ce que leur idylle va pouvoir aller jusqu'au bout? Suspense. L'univers de Brugio au cœur est un univers impitoyable. C'est un univers de la marine anglaise. L'univers se passe au 19e siècle. Il y a énormément de précision dans le détail des voiliers, des uniformes. On voit une nature déchaînée, des tempêtes. Et on voit un certain nombre de complots dont la symbolique est cette histoire d'armes puzzle qui est éparpillée entre plusieurs bateaux, plusieurs convois et qui est serait une arme stratégique que Bruce doit reconstituer. C'est un MacGuffin qui va être une trame narrative de la plupart des albums de la série. Alors les influences graphiques de William Vance, c'est des grands illustrateurs comme Franz McCarthy, Hans G. Kreese dans Éric le Normand et puis ses séries sur les Indiens, des dessinateurs plus classiques comme Harold Foster, Prince Vaillant, Alex Raymond, Flash Gordon ou Bruce Hogarth pour Tarzan, et aussi Palacio qui avait fait McCoy. Voilà, donc des influences bien digérées et un certain nombre de références. Alors là, dans cette série-là, c'est une référence cinématographique, c'est Captain Blood de Michael Curtis en 1935 qui a beaucoup influencé Vance. Des catalogues militaires sur lesquels il va trouver les armes qu'il va recopier, styliser. Les livres de Jean Boudriau sur la marine anglaise du 19e et aussi les romans de Cecil Scott Forester, 10 volumes entre 1936 et 67, les aventures de Horatio Hornblower. Et pour nous rendre des très beaux navires qu'on vous verrez dans les planches que vous avez écoutées, eh bien William Vance s'adonne au montage de maquettes de navires qu'il reproduit dans son album. Alors le style de Vance est un style réaliste, toujours d'après photos, croquis, maquette. Son découpage, il est très dynamique, très cinégénique. Et les couleurs, c'est toujours sa femme qui va les faire. Et sa femme, elle va servir de modèle pour tous les archétypes. Hein, pour Diana, qu'on voit dans l'album, c'est la femme de William Vance Petra. Voilà. Alors, les thématiques de la série Bruce G. Walker, c'est la guerre des mers, la domination des mers par la marine britannique, mais aussi le conflit avec les Espagnols à l'époque, les guerres napoléoniennes, et aussi la vie des marins, la vie des pauvres marins, qu'on va croiser avec aussi les gitans, hein, qui vont être des fois réquisitionnés pour servir de bêtes de fret pour les équipages. Et aussi un parallèle entre la violence des hommes et la violence des éléments. Alors, la postérité de ces histoires, elle est assez étonnante, puisqu'en fait, il va y avoir deux tomes, 6 et 7, qui vont se situer à Londres. Et là, c'est une histoire de complot avec une société secrète, les bourreaux de la nuit, et l'idée du Bruce G. Walker va retrouver son père, mais son père, qui l'avait renié, est aux mains d'une société secrète. Alors, il y avait ensuite un projet de revenir dans la mer avec effectivement, quand on prend le tome 2 de l'intégrale, on a le script d'une suite qui ne sera jamais achevée, c'est-à-dire Bruce G. Walker faisait naufrage, il était sauvé par un navire américain et on partait pour une nouvelle saga en 4 tomes, Signal 314, avec notamment évoqué la bataille de Trafalgar. Mais malheureusement, face au succès de la série 13, William Vance va abandonner cette série et on le regrette profondément. Alors, quel est le sens de cette série Bruce G. Walker aujourd'hui, qui revient en librairie avec une nouvelle histoire? C'est quelque part un parcours initiatique contrarié, c'est-à-dire la descente aux enfers d'un homme sans famille. Aussi, une vision de la vanité des conflits marins entre grandes puissances, le grand jeu des grandes puissances qui se fait sur terre et aussi sur mer. Ce anti-héros de Bruce G. Walker, petit à petit, il va se muer en archange salvateur qui va chercher tout au long de l'histoire à exorciser ses démons. C'est aussi la thématique de l'amour impossible. Il y a dans l'histoire 3 idylles avortées. Il est abandonné par sa fiancée. Et effectivement, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'avec ce personnage, on est face à la série préférée de William Vance. Il en parle à Patrick Gomer dans sa biographie. Il a vraiment voulu mettre son style de dessin au service de la poésie des quatre éléments, et le Centre belge de la BD ne s'y est pas trompé en 1998 quand la thématique de son exposition c'était l'eau, l'air, la terre et le feu, la poésie des éléments vue par William Vance, donc un grand nom du 9e art qu'il faut aussi aujourd'hui reconnaître et se rappeler qu'il n'a pas fait que la série 13. Donc on vous invite à vous replonger dans les aventures maritimes de Bruce G. Walker. Merci Monsieur Vance pour nous avoir fait rêver d'aventures maritimes.